À voix nue. Cette semaine, enregistrée en 1996, la rencontre entre Claude Kiègemann et Claire Bretéché, récemment disparue.
Claire Bretéché, hier nous avons parlé de votre entrée à l'Observateur, de la manière dont vous travaillez, de la difficulté que vous pouviez avoir à trouver les sujets des bandes dessinées et un certain nombre de choses qui concernent votre métier. Et puis, mais finalement, c'est un métier que vous pourriez faire. Vous vivez à Paris, comme vous nous l'avez dit, vous êtes venu à Paris pour travailler, pour gagner votre vie et faire carrière, disons, parce que c'est ce que vous avez fait carrière. Mais vous pourriez très bien vivre à la campagne. Est-ce que vous pourriez vivre à la campagne pour ce genre de travail?
Plein de gens le font. Mais j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent se sentir stimulés. Parce que il y a une espèce de trépidation quand même, qui est vraie ou illusoire, j'en sais rien, mais on a une espèce d'impression d'être un peu au cœur des événements. Même si Paris est une province, la province est encore plus une province que Paris. Et la campagne, n'en parlons pas. Moi, je vois pas très bien comment je pourrais travailler en dehors d'une grande ville.
Vous vous sentez très citadine?
Oh, j'ai des moments de rejet, oui. Comme tout le monde, mais plutôt, oui, plutôt.
Mais vous avez commencé par habiter par Montparnasse, mais il me semble que vous avez souvent habité Montmartre.
Oui, enfin, j'ai habité énormément d'endroits dans Paris, mais pour des courtes périodes. Et je suis arrivée à Montmartre en 67, parce que Montmartre était parfaitement dégueulasse. Maintenant, c'était bien retapé, et encore qu'il reste des coins un peu glauques, mais pas tellement. Mais à l'époque, c'était des taudis, carrément. Donc, c'était pas cher.
Donc, Montmartre, à partir de 67, ça fait de 30 ans.
C'est vrai que ça fait... Oh là là.
Et 30 ans que vous vivez donc, plus ou moins, enfin, en changeant de maison ou d'appartement,
oui.
À Montmartre. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que je veux dire...
J'aime bien le quartier, je suis attachée. C'est comme... Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'on s'attache bêtement à son quartier, c'est quand on n'a pas un esprit très aventurier.
Mais pourtant, vous étiez aventurière, comme vous nous avez expliqué.
Non,
vous
aviez envie d'être. Je fantasmais sur le fait d'être un aventurier.
Un aventurier, pas une aventurière. C'est bien autre chose.
Mais ça, c'est resté à l'état de fantasme, malheureusement.
Donc, Montmartre, ça n'est pas l'aventure, donc c'est un quartier sympathique.
Il reste quand même une vie de quartier, comme dans plein de quartiers de Paris, d'ailleurs. Mais c'est pas uniquement, si on n'est pas sur le circuit touristique, d'ailleurs je déteste pas parce que je déteste pas du tout les touristes, mais si on n'habite pas Place du Tertre, c'est un quartier charmant, très vivant.
Quand on monte encore plus haut, on voit tout Paris, et on a une vision d'ailleurs très spéciale quand même, ça j'aimerais le dire, très spéciale de Montmartre, c'est-à-dire qu'on a une vision à plat de Montmartre.
Et oui, c'est bizarre, hein. Mais il doit y avoir une espèce de front comme ça, dont on ne se rend pas compte... sous certains angles, dont on se rend compte sous cet angle-là. De toute façon, moi j'ai horreur de la vue sur Paris. J'aime beaucoup la vue sur Montmartre, mais la vue sur Paris me déprime à un point rare. Cette tour Eiffel, j'aime pas. J'aime
vous
pas la vue sur Paris. J'aime la vue sur l'est de Paris. Enfin, j'aime la vue sur le ciel, ce qui est évidemment le rêve absolu et le luxe absolu d'avoir une vue sur le ciel. Moi j'aime voir le ciel. J'ai une fenêtre qui encadre parfaitement le ciel de Paris pollué, ça donne des couleurs fabuleuses dans les violets. Et tous les soirs, je regarde comment est le ciel ce soir-là.
Et puisque à côté de la bande dessinée, vous faites de la peinture, est-ce que vous peignez le ciel?
Non. Je fais pas de peinture. Hein.
Vous faites pas de peinture. Vous n'appelez pas à la peinture ce que
pas
vous
ça
faites.
De la, c'est vraiment de la distraction. C'est de l'art d'agrément.
Oui, l'art d'agrément très réaliste. Hein.
Oui.
C'est un peu comme ça, les portraits à la Bonnard.
Je fais du portrait. À la Bonnard?
Non.
Oh non, Bonnard est un dangereux impressionniste.
Dangereux. Vous n'aimez pas les impressionnistes?
Un bon habit par rapport à moi. Une espèce d'académisme désuet, mais moi j'aime bien ça.
Académisme désuet fin 19e, comme ça
Oui, tout à fait. Bon, fin 19e, non, j'ai pas la technique des gens de la fin du 19e, mais c'est un truc... Enfin, c'est difficile de décrire...
Freud peut-être aussi, le peintre.
Lucien Freud. C'est pas Freud. Tout à fait aussi fort que Lucien Freud. Mais ça s'en rapproche, on peut dire ça, de très très loin.
Et pour quelqu'un qui dit ne pas faire de la peinture, si Lucien Freud n'est pas de la peinture...
Je vous dis justement que ça n'a pas grand-chose en rapport.
Mais ça s'en rapproche quand même.
Donc c'est-à-dire, dans la mesure où Lucien Freud fait des portraits, je fais des portraits. Mais enfin, Rembrandt aussi fait des portraits, je ne m'en rapproche pas beaucoup.
Est-ce que vous voyez beaucoup de peintures? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous allez dans les musées?
Oui, je fais ce qu'il faut. Oui, en fait, j'aime beaucoup.
Vous défendez pas comme ça, ne soyez pas caché derrière vos lunettes. Et derrière
non, mais vous savez, c'est toujours pareil. Alors, est-ce qu'on aime la peinture? Est-ce qu'on lit? Est-ce que...
Ben oui, mais pourquoi pas? C'est pourquoi ne me le diriez-vous pas? C'est pas de l'agressivité
parce
de ma
que
part.
Ça, non,
de
la je ne prends pas pour de l'agressivité, mais ça fait tellement partie de. Pour être l'honnête homme, il faut tellement s'intéresser à l'art. Au livre, au cinéma.
Quel genre de peinture vous aimez? Si justement, Julian Freud.
Lucian.
Lucian Freud, pardon, dont vous vous rapprochez de très loin. Est-ce que c'est un modèle ou est-ce que
j'aime
c'est
beaucoup,
un.
J'aime beaucoup Freud, oui. Je suis très. Je le connais depuis assez longtemps parce qu'il est très méconnu en France. En fait, il n'était connu qu'en Angleterre et aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi. Mais en France, c'était, ce genre de réalisme était. Totalement écarté de la culture. C'est drôle, hein? Maintenant, ça revient mollement avec cette exposition qu'il y a eu à Venise sur, et... le corps et tout ça, vous savez, cet été.
Oui, et puis l'exposition Freud Bacon à Saint-Paul-de-Vence aussi.
Ouais. Alors ça, on en a beaucoup parlé.
Ouais.
Il y a des gens qui sont très très furieux. Tous ceux qui sont conceptuels, et, etc., ne sont pas contents du tout de ce virage. Et c'était sensible même à la FIA, qui avait beaucoup de la peinture beaucoup plus peinte et beaucoup plus dessinée que les années passées. Hein.
Et ça, vous c'était préférez de loin ?
J'adore, je suis folle de joie. On met toujours ça en parallèle avec le retour de l'ordre moral, le retour de l'ordre
alors, qu'est-ce que
plastique,
vous...
etc., etc. Mais pourquoi pas ? C'est amusant qu'il y ait des balances comme ça.
Je suis en train de chercher le nom de ce peintre du 19e siècle qui faisait des dames...
Bougreau.
Est-ce que vous aimez Bougreau, par exemple?
Pas tellement bien en chair. Non, j'aime pas les pompiers. J'aime pas du tout les pompiers. Pourtant, je croyais que j'aurais aimé ça. Il y a eu une grande exposition sur les pompiers il y a quelques années. Et j'ai trouvé ça épouvantable. Je sais pas pourquoi. Quelquefois, on se fait des idées. Peut-être c'est voir plusieurs œuvres les unes à côté des autres. Ça fait pas du tout la même impression que d'en voir une isolément. Je trouve que ils avaient un manque d'humour et un manque de talent absolument frappant.
Et c'était bien fait quand même.
Mais oui, mais c'était bien fait sans l'être.
Ouais, c'est
parce
ça.
Que c'était tellement sans aucune vie. C'était mort, c'est un art mort, je trouve.
À l'inverse justement de Lucian Freud.
Pas Lucian Freud, oui, c'est pas vraiment mort. Ça remue quand même.
Mais alors justement, il y avait eu cette exposition Bacon-Freud. Et alors est-ce que ça vous paraît être une... Ça vous paraissait une bonne comparaison à faire et ça vous paraissait intéressant d'avoir mis ces deux peintres côte à côte ou une idée un peu mode comme ça.
Oui, moi je vois la seule raison, c'est qu'ils étaient copains et qu'ils ont travaillé à la même époque parce que leur travail se ressemble quand même pas tellement. Hein. Enfin, moi je trouve pas. Évidemment, ils sont tous acharnés beaucoup sur le corps, mais c'est là, à part l'époque, leur amitié et le corps, je ne vois pas grand-chose de similaire.
Avec ces énormes femmes comme ça de Lucian Freud.
C'est surtout des énormes hommes.
Et des énormes hommes. Et puis des portraits de femmes qui sont quelquefois justement assez ambiguës, des visages très, très en longueur, on ne sait pas très bien.
Non, mais c'est parce qu'il fait, il décompose complètement la surface. Et c'est très anguleux, c'est toujours très rude. C'est pas des top modèles, hein. On n'a pas l'impression qu'il peint des top modèles.
Vous non plus, d'ailleurs, vous ne dessinez pas des top modèles.
Dans quel...
Que ce soit dans Agrippa. Est-ce que vous trouvez qu'Agrippa, par exemple, est une top modèle?
Agrippine.
Est-ce qu'Agrippa, dans Agrippine...
Non, elle n'est pas du tout top modèle, mais elle est pas mal.
Elle est pas mal. Mais dans ce que vous faites comme peinture, vous faites beaucoup de visages d'enfants.
J'ai fait des enfants parce que j'étais entourée d'enfants à un moment donné. J'aime bien faire des portraits de gens pour lesquels j'éprouve quelque chose. Pour ça, je pourrais pas faire du portrait mondain, par exemple, parce que peindre quelqu'un, enfin dessiner quelqu'un qui m'intéresse pas, je détesterais ça.
Vos amis aussi, vous les peignez. Vous avez fait pas mal de portraits de vos, beaucoup de portraits de vos amis.
Oui.
Alors dans les portraits, il y a un personnage comme ça. On ne sait pas si. Qui est bizarre, c'est la mémé.
Ah oui.
Et c'est une grand-mère, donc,
oui,
qui grand-mère. Intervient d'ailleurs aussi, parfois aussi dans les bandes dessinées, dans vos bandes dessinées. Est-ce que c'est...
Ah non, c'est pas la même.
C'est pas la même.
Non, la grand-mère d'Agrippine n'a rien à voir avec ma grand-mère.
Et parce que c'est votre propre grand-mère.
Celle dont j'ai fait des portraits.
Portraits.
C'est ma grand-mère, oui.
Oui. Avec ses yeux très enfoncés.
Mais elle avait un regard très fixe comme ça parce qu'elle était sourde. Les sourds essaient de lire sur les lèvres, ça leur donne une espèce de regard un peu bizarre.
Et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'importance sur vous, votre grand-mère
Moi, je l'aimais bien, oui.
Donc, vous peignez les gens qui vous entourent, en gros,
oui.
Ce sont des portraits. À part une ou deux... comment est-ce qu'on appelle des intérieurs d'appartements, qui sont peut-être... Il y en a deux. Pas peints, d'ailleurs, dessinés.
Mais où?
Dans votre livre, qui
s'appelle
oui, Portrait.
Ah oui, dans le livre. Ah oui, mais c'est tellement vieux, ça, oui. C'était un atelier que j'habitais rue Lepic, où j'avais dessiné l'intérieur. Tout à fait dessiné à la Hockney, c'était plein l'époque David
Hockney. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est un peintre que vous aimez, David
Hockney. J'aimais beaucoup David Hockney, mais là, j'ai vu des dessins de lui récemment à Londres, et j'étais pas emballée. Je crois que je suis en train de changer d'avis. Moi, je préfère l'imagerie à l'abstraction, mais j'aime bien, il y a des choses abstraites que j'aime bien sûr.
Non, mais quand vous dites, heureusement qu'on revient au réaliste, au descriptif, au narratif...
Parce que c'est mon goût profond.
Oui, c'est pas un rejet de l'autre peinture.
C'est pas un rejet, mais je trouve qu'il y en a eu un peu beaucoup quand même. C'est-à-dire que le réalisme et le narratif et l'expressif a toujours continué à exister, mais on n'en parlait pas. On en parlait beaucoup moins. Quand il y a une exposition Balthus, c'était quand même un événement, par exemple. Bon, ben, je ne parle pas des grandes expositions qu'il y a maintenant, qui sont consacrées à des monstres sacrés. Mais je me souviens de cette exposition Balthus qu'il y avait eu il y a... Bon, on en parlait avec beaucoup de précaution, parce qu'il était figuratif et qu'il était inclassable, etc.
En fait, Balthus avait déjà, à cette époque,
même étant...
À la différence de Freud, qui n'était absolument pas connu en France. Comment vous expliquez, d'ailleurs, que tout d'un coup apparaisse ce peintre britannique, petit-fils, d'ailleurs, du psychanalyste, et que pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais parlé en France avant l'année dernière, en gros?
Parce y avait des gens qui connaissaient. Parce que c'est la vague de retour au réalisme, je suis absolument convaincue de ça. Parce que bon, les choses arrivent à un moment, vous savez bien, ça marche, tout d'un coup ça apparaît, on ne sait pas pourquoi. Non pas parce que ça se met à exister, ça existait avant, mais ça conquiert l'attention.
Les gens ont besoin de
on trouver... a besoin de changer d'image et de retrouver de nouvelles images. Ça, on peut dire quand même, c'est une nouvelle image, Lucien Freud.
Hein? Tout à fait. Quand vous travaillez chez vous, vous travaillez, vous avez un atelier, une pièce isolée.
Ouais.
Comment ça se passe?
C'est une pièce.
Ouais, avec beaucoup de documentation.
Non.
Et quand vous travaillez, donc, et que vous cherchez une idée, est-ce que vous écoutez de la musique?
Ouais, je travaille en musique, oui. C'est-à-dire, quand je cherche la conception de la page, j'ai pas de musique parce que ça déconcentre. Mais quand je dessine ou quand je l'écris comme ça, oui.
Mais quand vous cherchez la conception de la page, est-ce que vous faites ça dans un endroit, enfin justement, vous vous enfermez, ou vous pouvez faire ça en marchant dans la rue, en faisant, enfin je veux dire...
Non, je suis dans mon atelier, à ma table. Sinon, j'arrive pas du tout à me concentrer. Moi, il me faut des conditions pour me concentrer. Je suis pas le genre de gens qui arrive à écrire n'importe où sur un coin de table.
Quel genre de musique vous écoutez et qu'est-ce que vous aimez mettre comme musique quand vous travaillez?
Moi, je suis plutôt musique classique, mais c'est vraiment usant par moments. Alors, je cherche des variétés. J'aime beaucoup de choses. J'aime beaucoup la chanson. Il y a beaucoup de choses que j'aime en matière de musique, mais j'ai remarqué que quand on rentre le soir en voiture avec un verre dans le nez, on trouve la musique vachement mieux que quand on l'écoute à jeun.
Qu'est-ce que
j'écoute en ce moment? J'aime beaucoup Keith Jarrett. J'écoute beaucoup, mais pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ennuient.
Plutôt du jazz, enfin, ou de la musique moderne, ou...
Non, j'ai beaucoup de mal
dehors de
avec
radio
la
classique,
musique contemporaine,
enfin.
Oui. J'ai beaucoup de mal. J'essaie pourtant, je fais des efforts considérables. J'ai essayé d'écouter un concerto de Ligeti, mais je peux pas. Parce que je suis complètement attardée, mais tant pis, c'est comme ça.
Non, mais ne vous jugez pas.
Qu'est-ce que j'écoute? Je sais pas. J'écoute comme tout le monde, hein.
Vous branchez plutôt la radio que vous mettez des disques, c'est ça que
dépend.
Je veux dire.
Non, mais c'est-à-dire que ce que je trouve ennuyeux, c'est quand on connaît trop un disque. C'est vrai, c'est agréable. Il y a un moment absolument formidable où on le connaît un peu, mais pas suffisamment pour ne pas être encore excité. Évidemment, ce moment passe, puisque on le remet indéfiniment, et au bout d'un moment, il y a une saturation.
Et puisque nous parlons peinture, puisque nous parlons musique, et bien que ça soit peut-être un peu formel, On a parlé de la lecture et de la bande dessinée comme étant une forme de littérature, etc.
C'est vous qui l'avez dit.
Oui, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Umberto Eco. Mais est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que c'est important pour vous de lire? Est-ce que lire vous donne des idées? Est-ce que...
Non, ça donne pas d'idées du tout. Mais ça évite d'avoir à en chercher, c'est déjà bien.
C'est-à-dire que c'est pour échapper ou c'est pas par plaisir de lire?
Oui, c'est par plaisir de lire. C'est curieux, mais c'est comme ça, oui. J'ai de plus en plus de mal à finir un livre, c'est épouvantable. C'est comme pour le reste, je zappe, on zappe. Moi, tous les soirs, j'ai 4 bouquins. Et je lis un bout d'un, un bout de l'autre. En ce moment, je sais que c'est la question que vous allez me poser, quels sont les 4 que j'ai en ce moment?
Non, je n'allais pas vous la poser, mais c'est intéressant de vous dire. Si, je voudrais le savoir quand même. Allez, dites-le-moi.
Alors, c'est très chic. Je ne me rappelle même plus ce que j'ai. Un Woodhouse, ça, ce n'est pas du tout chic. J'ai La citrouille a besoin de vous de Woodhouse. J'ai le regret de le dire. J'ai quoi? J'ai le journal de Jules Renard. C'est quand même chic. Ouais.
Ça doit vous plaire, ça, le journal de Jules Renard.
Oui, à petite dose. Ouais. J'ai des nouvelles de qui de cette, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Enfin bon, c'est très intéressant ce que je vous dis. Et j'ai le journal des Goncourt. Un des volumes du journal des Goncourt chez Bouquin.
Voilà, ça veut dire que vous aimez quand même les nouvelles et les journaux, les correspondances?
Pas particulièrement. Non, il se trouve que j'ai ça en ce moment. Je viens de finir quand même un roman entièrement, ce qui est rare. C'est un roman qui s'appelle Un testament à l'anglaise, je crois, de Jonathan Coe.
Alors comment est-ce que, vous mettez l'accent sur le fait qu'on zappe, qu'on est dans une culture...
Parce qu'on est saturé, et puis on a absolument aucune concentration, on est dispersé parce qu'on fait beaucoup... Même si on ne fait pas beaucoup de choses, on est interpellé par beaucoup de choses. Et puis on n'a pas de patience, je pense.
Et est-ce que justement ça, c'est un sujet pour vous, si je puis dire, c'est-à-dire cette époque dans laquelle on vit, où on zappe, où on n'a pas de patience, où on passe d'une chose à l'autre, d'un livre à un autre. Je crois que c'est dans Agrippine, où il y a aussi une bande dessinée où même en classe, on voit tout le monde avec son petit téléphone.
Oui.
Tous les élèves et même le professeur qui a son téléphone portatif. Ça fait un peu partie comme ça de ce temps, de cette époque dans laquelle on vit. Comment vous la vivez vous-même, cette époque?
Je ne sais pas quoi dire. On baigne dedans, je ne sais pas quoi dire. Moi, j'ai des rejets. De toute façon, je supporte très mal le téléphone. Il y a plein de choses que je supporte mal, mais... Il ne viendrait pas l'idée d'avoir un téléphone portable, ça c'est sûr, certainement pas. Parce que pouvoir joindre tout le monde quand on veut, je ne suis pas sûre que ce soit un avantage, mais pouvoir être joint soi-même tout le temps, ça c'est pire que tout. Alors autant être fliqué.
C'est la prison.
C'est terrible. Oui, non, vraiment, j'aimerais pas. Et puis, j'ai rien de si important à dire aux gens qui ne puissent attendre quelque temps.
Est-ce que ce problème de la fin d'un siècle... de la venue du troisième millénaire vous intéresse, attise votre curiosité, vous fait faire du souci, par exemple, pour votre fils? Enfin, comment est-ce que vous réagissez devant cela?
Moi, il y a des problèmes vraiment graves, comme par exemple, il y a de moins en moins d'esturgeons en mer Caspienne. Ça, c'est quand même très, très embêtant, parce que...
Vous allez plus pouvoir manger
plus caviar. Et puis, vous avez vu le bigorneau foreur?
Non, j'ai pas vu.
Eh ben, racontez. Le bigorneau foreur fore des trous dans les coquilles d'huîtres et digère l'huître. Ce qui fait qu'on va manquer d'huîtres. Et ça, je trouve que c'est quand même très, très embêtant.
Oui. Et alors, il va y avoir sûrement des produits de remplacement, des substituts en plastique.
Vous croyez? C'est ça qui est tragique. Je sais pas ce qu'on va bouffer. Vraiment, je me demande, surtout au prix où est devenue la rate.
La rate.
Pomme de terre, rate.
Ah oui, est-ce que vous faites le marché vous-même, justement?
Non, je ne fais pas le marché.
Et alors, comment vous mangez?
J'ai quelqu'un qui le fait.
Ah bon. Vous êtes vraiment une bourgeoise.
Non, mais je paie quelqu'un, voilà. Qui est très contente d'être payée.
Je vais un peu vous agresser quand même.
Allez-y.
Hein, parce que, en dehors de votre esturgeon, des huîtres, etc., vous n'êtes pas du tout inquiète donc par l'avenir du monde, hein. Vous en contrebalancez.
Non, mais enfin, écoutez, tout le monde est inquiet de l'avenir du monde.
Non, mais est-ce que vous avez un regard sur ce qui se passe? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que ça peut vous inspirer pour un de vos albums?
Je ne crois pas.
Non,
je suis incapable d'avoir une vue d'ensemble sur des problèmes aussi vastes que l'avenir du monde. Moi, je vois plutôt les choses par le petit bout de la lorgnette, parce que le grand bout m'échappe.
Par le petit bout de l'esturgeon.
Oui. Petit bout de l'esturgeon.
Par le grain de caviar.
Justement, ne produit pas assez. C'est ça qui est pénible. Non, mais je ne comprends pas que vous ne soyez pas interpellé par, par la mer Caspienne.
Mais on n'en parle pas assez. Absolument, je suis tout à fait intéressée par la mer Caspienne, mais moi je préfère la mer Noire.
Ah, les produits sont moins intéressants.
Ah, mais il y a aussi des esturgeons en mer Noire, moins qu'en Caspienne.
Je ne savais pas.
Oui, oui.
Je suis sûre qu'ils ne valent rien.
Pourquoi vous me dites ça? Pour me faire de la peine?
Uniquement pour vous contredire.
Ah bon, d'accord. Est-ce que vous allez justement quelque chose sur la disparition du caviar? Parce que je trouve que c'est un sujet très important.
J'ai fait une bande dessinée sur le caviar dans Record. Ça devait être en 64 ou 65.
Ah. Et en disant que le caviar se portait mal?
Non, à l'époque, il se portait bien.
Et alors, ça racontait quoi? C'était...
Je ne me rappelle pas exactement.
Ça devait...
Mais on doit pouvoir le retrouver, si ça vous intéresse, vous le facturez.
Ah oui, c'était une autre époque quand même, c'était une époque d'abondance.
C'était une époque formidable.
Quand vous êtes devenu riche, vous n'avez mangé que du caviar?
Non.
Vous avez varié avec quoi?
Je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai mangé quand je suis devenu riche. Probablement la même
chose.
Des
ortolans?
J'ai mangé une fois des ortolans. Vous savez que c'est interdit. La chasse aux ortolans est interdite. J'en ai mangé chez... dont je ne dirai pas le nom.
Bien sûr, c'est interdit sur cette antenne.
Et c'est pas terrible.
Et alors, en dehors des esturgeons et du caviar, et du fait que vous ne faites pas vos courses vous-même, est-ce que vous faites la cuisine pour vos amis?
Oui, je fais la cuisine.
Oui?
Oui, je fais la cuisine.
Et alors, vous la faites bien?
Je déteste pas ça. Ah, ça, je sais pas.
Et qu'est-ce que vous aimez faire? Tenez, donnez-moi une recette de Claire Bretéché. De vos recettes.
Écoutez, non.
Alors, dites-moi ce que vous aimez faire. Si je viens dîner chez vous pour revoir le ciel de Paris, vous allez être obligé.
Je ferai peut-être rôtir un jarret si je suis très sympa.
Ah ben, j'espère que vous serez très sympa.
Parce qu'en général, ça se fait bouillir, mais c'est bien meilleur au four.
Ah oui?
Non, mais je ne suis pas très, très intéressée par la bouffe. Hein. Je dis ça histoire de causer.
Vous n'aimez pas
J'aime bien, mais sans plus. C'est pas vraiment un intérêt puissant. J'aime pas, par exemple, aller dans un grand restaurant deux fois de suite. Je suis pas du tout épatée par la grande, grande cuisine.
Mais faire la cuisine pour vos amis, ça doit vous plaire.
J'aime bien ça, oui.
Ou pour les gens avec qui...
Ce dont j'ai horreur, comme je vous disais, c'est de faire les courses. Je déteste ça. Mais la cuisine elle-même, j'aime bien.
Vous invitez beaucoup d'amis chez vous à dîner ou vous préférez aller dîner chez les autres?
J'invite plus que je ne suis invitée, je ne sais pas ce qu'il faut en conclure. Mais j'aime bien avoir des amis. Mais comme je suis chez moi...
C'est peut-être parce que aussi vous aimez rester chez vous, mais vous pourriez au contraire avoir
envie
de sortir.
Non, c'est parce que j'aime voir les amis. Et pour les voir, il faut les inviter, ils sont tous débordés, ils n'ont pas le temps tellement de faire la cuisine. Ils travaillent à l'extérieur. Les gens qui travaillent à l'extérieur, c'est une galère de faire la cuisine. Moi, je suis chez moi. J'ai quelqu'un qui me fait les courses, donc c'est quand même relativement facile. Alors, c'est assez agréable.
Alors, vous faites la cuisine, enfin, vous savez faire la cuisine, vous aimez bien ça. Est-ce que vous savez aussi choisir les vins?
Je ne suis pas très calée, non. Je ne suis pas calée du tout pour les vins.
Alors, vous demandez ça à votre fiancé de s'en occuper? Le
fiancé s'en occupe, oui. Mais je sais si un vin est bon, mais je sais pas le choisir. Je m'en occuperais si je devais le faire. Évidemment, je préférerais ça plutôt que de boire de la piquette, mais étant donné que comme je suis très paresseuse, étant donné que je peux m'en passer, je m'en passe.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre entre Claude Kegeman et Claire Bretéché, récemment disparue. Avoigny, réalisation Nicole Salerne, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À Voix Nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.